de mathématiques. Professeur de mathématiques immédiatement. Votre boss est un imbécile, il ne comprend rien du tout. Sans doute qu'il avait dû dire ça au professeur, mais rien, c'est pas. Vous voyez, la philosophie et les mathématiques. La philosophie, principe d'identité. Un et un, un. C'est vrai. Ça ne s'additionne pas avec l'indivisible. L'un, c'est l'indivisible. L'indivisible ne s'additionne pas avec l'indivisible. Mais comme les gosses ont un sens, quelquefois, de choses beaucoup plus profondes, et le gosse avait très bien reconnu la différence de un. Et une barre. Une barre, c'est quantitatif. Et une autre barre, ça fait deux. Mais un, c'est indivisible. Vous ne pouvez pas additionner l'indivisible et l'indivisible. Non, ça ne s'additionne pas. C'est un même quantitatif qui s'additionne. Et le cause avait senti ça. C'est assez beau, ça. Au plan philosophique, on fait la distinction entre l'un, propriété de l'être, indivisible et l'un quantitatif. Et le gosse avait fait cette distinction dans sa baignoire extraordinaire. Croire que Florin d'être intelligent. Il avait une réaction spontanée de dire un et un, c'est pas deux. Je crois que c'est très important de maintenir en éveil les interrogations. Et c'est quand on interroge plus grand, on progresse plus. Si vous interrogez, vous maintenez votre intelligence en éveil. Interroger, c'est comme disaient les théologiens du Moyen Âge. Et j'aime cette image. C'est tendre l'arc en y mettant la flèche. Tendre l'arc. Quand votre intelligence interroge, elle est comme le chercheur. L'intelligence qui n'interroge plus progresse pas. Donc quand on est tendu, on désire connaître. Alors on veut aller le plus loin possible. Bien quand vous interrogez pourquoi cette diversité d'opérations et cette unité, il faut nécessairement qu'il y ait une source unique qui est présente à travers toute cette diversité et qui en même temps unifie toute cette diversité. Pensez-vous utile à un certain moment de faire une distinction âme et esprit? Nous y reviendrons. Lorsqu'on dit que l'âme a quelque chose de plus que le corps, n'est-ce pas, ça c'est intéressant, n'est-ce pas faire une séparation réelle de ce qui n'est qu'une distinction de l'intelligence? Très bien. Notre âme ne s'exprimant, du moins dans notre condition présente, que dans le corps. Bien, je dis que ce n'est pas une séparation, c'est une distinction. Une distinction réelle. Il faut arriver à bien comprendre la différence entre distinction. Notre intelligence peut distinguer. C'est même le signe d'une intelligence pénétrante. L'intelligence, c'est ce qui lit de l'intérieur. L'intelligence est capable d'analyser. Quand on analyse, on distingue. On peut analyser en séparant. Il y a diverses manières de distinguer. Il y a diverses manières de séparer. Je fais toujours la comparaison entre la manière dont une maîtresse de maison sait couper un pulsions entrecoupées avec le sécateur. Distinguer les articulations, puis on sépare ensuite. Autre chose est distinguée, autre chose est séparée. Quand on sépare, on fait deux réalités l'une à côté de l'autre. Quand on distingue, on respecte une unité existentielle. Mais on voit qu'il y a deux sources. Qu'il y a une source radicale, et puis qu'il y a la manière dont cette source existe. C'est ce qu'on fait lorsqu'on arrive à distinguer l'âme et le corps. On les distingue, on ne les sépare pas. On sait que l'unité du composé, c'est la seule chose que j'expérimente. Et que c'est très vrai. Que mon âme s'exprime toujours à travers mon corps. Quand je parle, c'est mon corps. Pas seulement. Mon corps est un instrument. Par le point de vue de la voix. Et qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que c'est mon corps qui pense? Il y a des gens qui répètent. Et il y a des gens qui pensent. Normalement, quand on parle, on pense. Et on communique à l'autre ce qu'on a pensé. Quand on répète, on ne sait plus très bien. C'est bien les vieux professeurs. Ils répètent leur cours, on a tous connu ça. Ils répètent leur cours, ils s'aperçoivent au milieu qu'ils se sont trompés. C'était pas ça, c'était autre chose. Ça peut arriver. Ils répètent, répéter, ce n'est plus vivant. La parole est vivante quand elle est liée à la source. Là, vous avez un exemple merveilleux, la différence de répéter. Et découvrir une parole vivante, une parole morte, une parole écrite, et puis une parole vivante. La parole vivante, elle sort de source, des petits pains chauds, et la parole morte, des petits pains rassis. Vous répétez, c'est pas la même chose du tout. On ne peut éveiller qu'avec des petits pains chauds. C'est-à-dire une parole vivante. Tandis qu'autrement, on n'éveille pas, on endort. C'est vrai, c'est toute la différence entre une pensée qui se transmet par la parole et puis quelque chose qu'on redit. On ne le pense pas actuellement. On voit ça très fort chez les artistes. Et donner un cours, c'est une œuvre artistique. C'est pas une œuvre artistique uniquement, puisqu'on transmet une pensée. Mais l'artiste transmet aussi quelque chose. Et on sent très bien, le véritable artiste, il transmet quelque chose. Il transmet ce qu'il porte en lui. Il le transmet comme quelque chose d'actuel qu'il porte en lui. Et puis il y a les artistes qui répètent. Ils ont un modèle, ils répètent. Ils font ça admirablement, quelquefois avec beaucoup plus de précision, mais ils répètent. Alors, il faut bien comprendre que la distinction que nous faisons entre l'âme et le corps n'est pas du tout une séparation. C'est pour ça que je prends toutes les opérations et nous touchons un principe. L'âme, je ne la saisis pas comme une réalité distincte du corps. Je la saisis contrat, non, non. C'est pour ça que tout ce que vous faites, avec votre corps, avec votre main, c'est votre âme qui le fait. C'est pas votre corps. Quand vous chupez un peu d'argent dans la poche du voisin, de la voisine, ça fait dire, ah, c'est mon corps. Et vous le dites, mon corps, il est mécanisé comme ça. Il est attiré. Si encore c'est de l'or, on peut dire, il est attiré. Il est aimanté par l'or, il sent bien. Mais mon âme n'en peut rien du tout. Elle n'en peut rien du tout, mon âme. Il est un peu. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche plus là? Il y a un mécanisme qui ne marche plus. Quand ma main va chercher chez le voisin quelque chose, en sachant très bien qu'il fait ça avec beaucoup d'adresse, aller en Italie, ça se fait admirablement. Et vous apercevez quand vous êtes arrivé qu'il y a quelqu'un qui a chipé votre portefeuille. Votre main est liée à votre âme. C'est votre âme qui fait ça. Mon corps est animé par mon âme. Mon corps est porté par mon âme. C'est ce que les médecins reconnaissent quand ils disent « Oh, ce malade, il a du moral. » Et grâce à son moral, on peut le sauver. Il n'a plus de moral. Quand il dit qu'il a du moral, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une âme qui porte le corps. La maladie est dans le corps vivant. Alors si vous avez une maladie qui atteint votre âme et qui vous met dans un état de quelqu'un qui ne peut plus réagir, en dessous du niveau de la mer, alors à ce moment-là, on dit ça va craquer. Tandis qu'il y a comme un dynamisme profond. Ah, c'est autre chose. C'est un phénomène qu'on voit, ça, quand même. Le corps est porté par l'âme. C'est comme ça que je peux me mouvoir. C'est comme ça que je peux m'éveiller. Et je peux, plus ou moins, bon, mon corps est déterminé, hein, je ne peux pas me mettre à voler en me sentant un désir fou de voler de temps en temps. Quand il y a beaucoup de voitures devant moi, mon désir faire ça, c'est évident, je ne peux pas le faire, c'est évident. Mon corps me limite, il me limite, il me conditionne terriblement. Mais mon corps ne me détermine pas dans mes opérations vitales. Il ne détermine que certaines opérations. J'ai une vision qui dépasse mon corps. Alors, voyez, ce sont ces relations entre le corps et l'âme qui sont extrêmement intéressantes à voir. Parce que là, on touche quelque chose d'extrêmement profond. Si votre âme est très vivante, votre corps sera bien plus fort. On croit qu'il y a l'élément chimique qui peut guérir le corps, mais pas du tout. Pas du tout. Profondément, l'âme porte le corps. Et là, je ne dis pas que l'âme peut guérir toutes les maladies, non, non, disons pas ça. Parce que là, on tomberait dans l'extrême. Mais on peut dire que l'âme permet une patience, une durée, qui fait qu'à ce moment-là, on a un peu de temps pour réagir. Et on fait ce qu'on peut pour essayer de rétablir, comme disaient les anciens, les humeurs, l'harmonie. Parce que ça revient toujours à ça, vous savez. On met des mots savants, on ne sait pas grand-chose. Le cancer, on ne sait pas très bien. Et quand on dit, ah, ce qu'on m'a dit, on m'a dit, votre gorge, c'est viral. C'est viral, alors. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien, c'est viral. Très bien. C'est viral. Alors, on le supporte. Et on essaie de patienter pour faire petit à petit. L'âme arrive à dépasser un obstacle. C'est un obstacle. Chaque maladie est une expérience de voir comment l'âme se comporte dans un corps un peu malade. Vous comprenez qu'il y a là quelque chose de très important parce que quelques années après. Il vieillit mal. Très rare que les grands sportifs vieillissent bien. Parce qu'ils ont fait tellement attention à leur corps qu'ils n'ont plus fait attention à leur âme. Quelqu'un qui vieillit bien, c'est celui dont l'âme s'est développée spirituellement. Alors il porte son corps. Alors, d'une certaine manière, ben oui, le corps a tel âge, mais l'âme n'a pas la même âge du tout. Quel âge attendra ? Votre corps, vous le savez à peu près. Mais c'est très curieux de voir la réaction. Et aujourd'hui, beaucoup de médecins sont très attentifs à ça. De voir combien l'âme réagit sur le corps. Alors, c'est une idée substantielle. C'est une idée substantielle. Dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la vie. Entre l'âme et le corps. Et cependant, il y a une distinction. Alors, il y a une interaction, je suis tout à fait d'accord. Quand vous êtes fatigué, votre corps est fatigué, il y a une réaction sur votre âme. Ça peut arriver. Votre âme peut être triste, parce que c'est votre âme qui est triste, c'est pas votre corps. La tristesse, c'est votre âme. Votre âme a de la peine à en sortir, elle est triste. Alors, vous avez plus de peine à vous porter. Mais quand votre âme, au contraire, est joyeuse, et que vous avez une grippe, vous arrivez à dépasser ça. Plus ou moins, mais il faut le dépasser. Il y a une force intérieure de l'âme qu'on peut cultiver. On cultive son âme. On cultive aussi son corps, c'est bien évident. On le cultive. Mais faisons attention, dans un monde comme le nôtre, terriblement matérialisé, on cultive surtout l'âme, surtout le corps. Et on cultive très peu l'âme. Alors au bout d'un certain temps, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'humanité s'affadit. Elle s'appesantit. Parce qu'il n'y a plus la force intérieure de l'âme. C'est ça qui est important à réfléchir. Unité substantielle, distinction et un ordre. L'âme informe le corps. L'âme actue le corps. Et le corps est pour l'âme. Et non pas l'âme pour le corps. Est-ce que le sommeil est pour être éveillé ou être éveillé est pour dormir? En terminant, puisque c'est l'heure, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure à propos de ce petit séminaire chez ce professeur de l'université de Lausanne qui maintenant est de l'autre côté, c'est-à-dire, j'espère bien, dans sa béatitude. Mais à ce moment-là, j'étais au milieu de ce groupe de jeunes à l'aventure, d'autant plus qu'ils étaient tous de Lausanne et que je venais de Fribourg. Et comme j'étais français, ils m'acceptaient. J'aurais été purement de Fribourg, ils ne m'auraient pas accepté. Mais français, très bien. Alors, ils étaient tous pour la non-distinction de la vie du corps. Puisque, une fois, je parlais de la distinction de l'âme et du corps, j'ai vu un petit sourire, alors tout de suite, j'ai arrêté, j'ai dit, pourquoi vous souriez? Et puis, la discussion est entrée dans le vif du sujet. J'ai demandé à cette étudiante, est-ce que pour vous, c'est la même chose de faire de la philosophie ou de dormir? C'est gros comme interrogation. Elle n'a pas osé me répondre. Parce qu'elle savait très bien que si elle disait oui, elle affirmait qu'il y avait en elle une dualité qu'il fallait expliquer. Et j'ai repris, est-ce que pour vous c'est la même chose de faire de la philosophie ou de dormir? Quand est-ce pas le temps?
a descendu de plusieurs degrés. Parce que le thé était très bon, qu'on avait tous soif. Alors on s'est mis à prendre. Voilà. Je suis retourné vers la même étudiante. Est-ce que vous avez remarqué que depuis que le thé est arrivé, la discussion philosophique a diminué? Ah tiens oui. Est-ce que c'est la même chose, boire du thé ou faire de la philosophie? Elle n'a pas voulu répondre. Alors je dis, c'est pas étonnant que vous ne voulez pas répondre, alors que c'est une évidence, quoi. Autre chose est boire du thé, surtout quand il est très bon. Et puis faire de la philosophie, quand elle est moins bonne. C'est pas la même chose du tout. Et je dis, voyez, dès que vous acceptez la distinction entre dormir et faire de la philosophie, vous êtes obligé d'accepter qu'il y a en vous une dualité. Et cette dualité, vous êtes obligé de la multiplier par la même chose de boire du thé et faire de la philosophie. Par la même chose de boire du thé et de dormir. Vous êtes bien obligé d'accepter ça. Vous êtes bien obligé d'accepter qu'en vous, il y a une très grande diversité d'opérations à des niveaux très différents. Et que tout ça, c'est vous. Et que vous habitez tout ça. C'est du vécu pour vous. Il y a donc une source d'unité. Appelez ça n'importe comment, ça m'est égal. Mais dites qu'il y a une source d'unité, c'est la seule chose que philosophiquement vous pouvez faire. Vous n'aimez pas parler de là parce que vous dites cette connotation religieuse très bien. Ça m'est égal. Dites qu'il y a une source radicale de vie qui est en vous. Et que cette source anime toutes vos opérations. Et que certaines opérations sont du côté du corps. Dormir. Manger. C'est bien évident. Et puis que d'autres opérations, philosopher, c'est pas votre corps. Il y a quelque chose en vous. Alors pour dire sur votre cerveau, mais attends, on verra, le cerveau n'explique pas l'intelligence. Le cerveau est indispensable à l'exercice de mon intelligence, mais n'explique pas ce qu'est mon intelligence. Petite distinction très importante. Nous le reverrons, ça, parce que ça, c'est capital. De bien comprendre autre chose et d'expliquer l'exercice, c'est vrai. Toute ma vie humaine, tout l'exercice de ma vie humaine implique le corps. Je n'ai aucune opération dont j'ai l'expérience, aucune opération qui est séparée de mon corps. Aucune. Toutes mes opérations impliquent un lien avec l'imagination. Toutes mes opérations. Ça explique comment une petite opération peut vous rendre complètement gogo. Puisque de fait, toutes mes opérations vitales sont liées à l'imagination. Et ça, c'est vrai, je le constate. C'est l'observation, ça. C'est l'expérience. Mais autre chose est de reconnaître l'exercice et de chercher ce qu'est ces opérations vitales. Il y a des opérations vitales dont le contenu, dont la détermination, dont la nature est au-delà du corps. Et c'est ce que nous essaierons de comprendre progressivement.
D'essayer d'assainir par le point de vue de la confiance pour maintenir une coopération, une harmonie entre les citoyens, permettre qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur qualité. Ceci ne peut se faire que dans la mesure où l'aspect politique dépasse l'aspect économique. Si l'aspect économique commande le point de vue politique, ce sera la rivalité dans l'efficacité qui sera première. On sera en face de requins qui veulent s'avaler mutuellement. et ce sera le règne du plus fort qui l'emportera toujours. Ce sera le règne des plus nombreux qui l'emporteront toujours. Et l'aspect qualitatif disparaît complètement. Il n'y a plus que l'efficacité. Je crois que c'est cela dont on doit être attentif aujourd'hui. Être attentif à ce que représente vraiment le point de vue politique. Et la famille, c'est plus facile la famille parce que la famille existe encore. Tandis que le point de vue politique, on se demande s'il existe encore. Il n'y a plus des partis. Vous avez tous vu, après les élections, faut regarder, je regarde jamais la télévision, mais j'aime bien de la regarder après les élections. La manière dont les gens se disputent, l'irascible est extraordinaire à ce moment-là. Et on dit, c'est ça la France. Hein? Une image. Vous savez, à l'étranger, quand on voit ça, j'ai des échos de temps en temps, d'amis qui disent, ça folle. On voit qu'il y a toutes les passions, c'est des requins. C'est des requins qui veulent à tout prix. S'ils pouvaient tuer Londres, ils le tueraient. Le point de vue politique consiste à dépasser les partis pour chercher le bien de l'homme. C'est le bien de l'homme qu'on doit chercher, au sens très très fort. Et la possibilité pour l'homme de se développer dans un climat de confiance, dans un climat où on garde le patrimoine d'un pays, la culture d'un pays, et on essaie, parce qu'on ne peut pas la garder, sans progresser. S'il n'y a pas un progrès, c'est impossible. Alors, quand il n'y a plus que ce point de vue économique, donc de l'efficacité immédiate, c'est la mort du politique. Et c'est intéressant, c'est terrible, mais c'est intéressant de constater ce qui se passe aujourd'hui, pour essayer de comprendre cette harmonie profonde entre la personne, la famille, la communauté des travailleurs, dans tous les sens, et l'aspect politique. Et de comprendre l'ordre qui doit exister entre ces différents points de vue. La famille est fondamentale. L'aspect politique est ce qui permet l'achèvement. La communauté des travailleurs est intermédiaire. Elle doit donner la possibilité matérielle d'un développement au plan de la culture, au plan de la science. Elle doit permettre cela. Elle doit permettre à la famille de se développer pleinement. Elle est attentive à la famille. Et elle est attentive à ce développement qui doit être toujours plus grand au point de vue proprement culture et art. Le dernier cours, c'est donc le 13 mai, je crois. 13 mai. C'est bien ça ?